pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Ella Krebi-Romdane, conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère municipale à Massy et porte-parole de Génération. Bonsoir.
Bonsoir Loïc.
Ella Krebi-Romdane, j'aimerais d'abord vous faire réagir sur la loi appelée Sécurité globale. Les défenseurs des libertés se sont mobilisés toute la semaine contre l'article 24 car ils considéraient que le texte risquait d'entraver la liberté de la presse. Finalement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est dit prêt à réécrire l'article polémique. C'est une bonne nouvelle ?
On verra le résultat de cette annonce, mais moi j'étais tout à fait solidaire avec l'ensemble du mouvement Génération et de beaucoup d'élus, et en particulier des élus de issus de la gauche et des écologistes, solidaires des combats contre cette proposition de loi, avec non pas un seul article qui pose problème, mais plusieurs articles. C'est en effet une loi envisagée qui est non seulement antidémocratique, mais liberticide, hein, disons-le, puisque elle remet en cause la liberté notamment de pouvoir filmer des policiers. Or, nous avons constaté ces derniers mois et même ces dernières années à quel point la démarche pouvait être utile pour éclaircir un certain nombre de dossiers. Ou en tout cas mettre en lumière des irrégularités notoires dans beaucoup de territoires, notamment sur la question des violences policières. Donc voilà, moi je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de transparence et de liberté garantie sur ces sujets-là. En tout cas, le gouvernement de M. Macron prévoit en tout cas de museler très largement la presse, mais l'ensemble des citoyens et citoyennes de notre pays.
Vous avez le sentiment que le gouvernement Macron a pris un virage très à droite, comme le disent d'autres responsables de gauche ?
Je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'est dupe et n'a de doute sur l'identité réelle de ce gouvernement. Il se trouve qu'ils sont arrivés en nous disant que la droite et la gauche, ça n'existait plus d'une certaine manière. Ce qui se vérifie jour après jour, c'est précisément l'inverse, c'est qu'ils prennent une orientation très clairement libérale sur les questions économiques. Et on le voit notamment à travers le plan de relance. Alors il se trouve qu'ils le justifient par l'état d'urgence, mais de la même manière, ils n'ont pas mis fin aux aides aux entreprises sans contrepartie qui étaient en place même avant qu'ils n'arrivent. Ils les ont même amplifiées. Donc en effet, sur le plan économique, c'est clairement un gouvernement de droite. Et d'ailleurs, le choix du Premier ministre dénote cette identité assumée. Mais sur le plan sociétal également, et on le voit avec cette proposition de loi. Alors, ce qui est le plus grave, c'est qu'en plus, ils le font passer par une proposition de loi, donc des députés, pour ne pas assumer un projet de loi du gouvernement. Alors, je trouve que c'est une forme d'hypocrisie qui dénote de leur incapacité à assumer complètement leur orientation politique. Donc, et sur les questions économiques et sur les questions sociétales, je crois qu'on est très clairement aujourd'hui face à un gouvernement de droite auquel je crois qu'il faut proposer une alternative.
Et là, Krebi Romdane, le 9 décembre sera présentée en Conseil des ministres la loi sur le séparatisme. Elle a d'ailleurs changé de nom puisqu'elle est désormais appelée projet de loi confortant les principes républicains destiné à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Le texte comprend aussi des dispositions contre la haine en ligne. Ça a été ajouté après l'assassinat de Samuel Paty. Ce projet de loi vous paraît-il nécessaire ?
Écoutez, le contexte actuel rend ce débat très brûlant et je ne suis pas favorable à ce qu'on traite les sujets sous le coup de l'émotion. Moi, je suis une républicaine convaincue. Vous savez, je considère qu'il y a une communauté, c'est la communauté nationale, et que chacun et chacune d'entre nous sont des enfants de la République, des enfants de cette communauté nationale. Donc, si vous me parlez de République, moi je sais quelque chose qui a un écho très positif. Mais il ne faut pas que ce discours républicain, ce discours qui est défenseur de la laïcité, permette finalement de justifier des atteintes à certaines populations et de cibler certaines une religion en particulier. Or, force est de constater qu'il y a un climat ambiant qui s'est d'ailleurs amplifié après les événements terroristes, après les attentats terroristes et le meurtre ignoble du professeur d'histoire géo Samuel Paty, que nous condamnons unanimement et avec force. Force est de constater que ce, le sentiment, en tout cas le discours anti-musulman s'amplifie. Il se trouve qu'il y a même des chaînes de télévision qui n'ont plus de mal à recruter parmi leurs chroniqueurs des journalistes qui portent une vision et un discours anti-musulman, très clairement. Et alors, si on veut lutter contre le séparatisme, c'est aussi là-dessus qu'il faut se battre, pour que la République, elle soit ouverte à chacun et chacune de nous, et pour que cette position républicaine, elle ne vise pas une population, en l'occurrence les musulmans en particulier.
Une centaine de maires interpellent Emmanuel Macron sur la situation des banlieues. Ils évoquent les difficultés dans les quartiers populaires en raison de la crise sanitaire. Ils demandent que 1% du plan de relance soit sanctuarisé pour ces territoires. Vous qui vivez à Massy, c'est une demande à laquelle vous souscrivez ?
Évidemment. Bien sûr que j'y souscris, non seulement j'y souscris, mais je regrette que le maire de Massy, justement, et j'ai eu l'occasion de le lui rappeler hier soir en conseil municipal, n'ait pas rejoint cet appel de maire. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous disais que les mesures, elles sont essentiellement économiques pour aider les entreprises, et c'est bien heureux, les entreprises aujourd'hui, en particulier les petites entreprises, ont besoin d'un coup de pouce. Je pense notamment au commerce de proximité, c'est pas exactement ce qui est prévu par le plan de relance. Dans le cadre de ce plan de relance, il ne faut pas oublier les abandonnés de la République, que sont les quartiers populaires. Moi, je vis dans un territoire où il y a ce qu'on appelle des quartiers classés en politique de la ville, c'est-à-dire des quartiers où la concentration de difficultés sociales est plus importante que la moyenne, et donc où les populations sont en grande difficulté, en fragilité. Moi, je suis pour qu'on rétablisse la République dans ces territoires. Et la République, c'est quoi ? C'est du service public, et ce sont des moyens pour faire en sorte que les populations vivent mieux dans ces territoires. Donc évidemment que je souscris, je connais un certain nombre de maires, notamment de mon département, je pense au maire de Grigny, Philippe Riault, qui a rejoint cette dynamique, et je veux vraiment les saluer et exprimer toute ma solidarité à cette initiative. Puis en plus, on a eu une annonce, c'est qu'ils allaient être reçus par le Premier ministre dans quelques jours, le 23 novembre, c'est une bonne nouvelle.
Vous avez bien parlé des territoires abandonnés de la République, alors qu'on entend parfois sur les plateaux de télévision l'expression « territoire perdu de la République ». Où se situe la nuance ?
Les territoires ne se sont pas décrochés tout seuls. À un moment, on a bien vu l'évolution. On a vu que là où les associations étaient beaucoup moins aidées qu'auparavant, on voit que le bénévolat s'étiole, et parce que c'est quelque chose, les gens sont de plus en plus en difficulté. Je crois que les mentalités ont beaucoup changé. Donc moins de bénévoles, moins de moyens. Les contrats aidés ont été supprimés par le gouvernement Macron, ce qui a encore plus affaibli ces associations locales, sans parler des dispositifs régionaux. Comme nous, en Ile-de-France, hein, on avait un dispositif qui s'appelait les emplois tremplin, qui non seulement créait de l'emploi, mais permettait aussi aux associations de fonctionner, qui a été purement et simplement supprimée par Madame Pécresse dès qu'elle est arrivée aux responsabilités à la région Île-de-France. Tout cela a contribué à, d'une certaine manière, à rendre la République absente. Et on a aussi les services publics qui disparaissent dans ces quartiers populaires. Nous avons les effectifs de police qui manquent. Moi, je sais que dans ma circonscription, enfin dans mon territoire, dans mon agglomération, on a un policier pour 769 habitants, là où la moyenne au niveau départemental est de un policier pour 551 habitants. On voit bien que ces territoires sont parfois moins bien dotés, alors que les besoins sont plus importants. Et donc c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Rétablir la République, c'est rétablir la présence des services publics près des populations qui en ont le plus besoin, pour assurer, peut-être pas l'égalité tout de suite, mais en tout cas réduire la fracture.
Vous parlez de réduire la fracture, et là, Kribi Romdan, il y a un anniversaire cette année, on en a peu parlé dans les médias. Il y a 15 ans avaient lieu 3 semaines d'émeutes et de révoltes dans les quartiers populaires. Tout était parti de la mort de 2 jeunes, Zied et Bouna. Et certains jeunes qui sont nés à cette époque, en 2005, ont le sentiment finalement de vivre les mêmes problèmes qu'il y a 15 ans. Comment l'expliquez-vous ?
C'est un sujet qui m'émeut particulièrement parce que d'abord c'est une période où mon engagement militant s'est amplifié, ici même dans ma ville, à Massy, parce qu'on a été nombreux à s'engager dans les mouvements associatifs, à assurer des maraudes pour que justement ce qu'on a appelé les émeutes de 2015 fassent le moins de dégâts. J'ai moi-même connu des jeunes que je connaissais très bien, qui ont été mis en grande difficulté, pour certains qui ont été arrêtés, qui sont passés en comparution immédiate à cette époque-là, alors qu'ils déclaraient, eux en tout cas, ne pas être concernés par ce qui se passait. Bref, c'est une période que nous n'aimerions pas voir revenir. Or, on constate bien qu'aujourd'hui, beaucoup de nos banlieues s'embrasent. Moi, je le vois. Il y a une situation difficile qui est amplifiée par les difficultés sociales, notamment liées au confinement. On a vu que le fait que les jeunes ne soient pas à l'école, en formation, au travail, ben, ça faisait beaucoup de situations d'errance. Et parfois, ceux d'entre eux qui n'étaient pas dans la délinquance ont malheureusement pris un chemin malheureux parce qu'ils étaient laissés un peu à l'abandon. Et quand on est à 6, 7, voire plus dans un appartement, il est certain qu'on n'a pas envie de passer toute la journée, ou en tout cas on ne peut pas techniquement passer toute la journée à la maison. Et donc ça a créé des situations sociales dramatiques. Moi, dans mon territoire, il y a même eu des quartiers qui se sont affrontés. Ça a suscité malheureusement la disparition, la mort de jeunes. Ce sont des situations graves. Il faut vraiment là-dessus encore que les moyens soient mis et qu'il y ait un travail de fond qui soit assuré. Moi, je crois beaucoup à l'insertion. À l'insertion professionnelle, et je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. On a aujourd'hui une jeunesse qui se sent abandonnée. Les choix politiques qui sont faits, moi par exemple, je ne comprends pas. On parle beaucoup de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Je vis dans un territoire où 15% des habitants de ma ville vivent sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas négligeable, hein, pour une ville de 55 000 habitants. Je vois aussi les difficultés quand je passe devant le Secours populaire et que je vois les files d'attente s'allonger de jour en jour pour les familles qui vont chercher leur colis alimentaire. Tout ça donne incontestablement un cocktail explosif qui peut susciter beaucoup de difficultés, de la violence. Et je crois qu'il faut qu'on ait vraiment conscience de la nécessité de s'impliquer, que la puissance publique s'implique sur le terrain, que les maires, que l'ensemble des élus se retroussent les manches. Ce n'est pas un chantier facile, mais je crois qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, des solutions peuvent être trouvées. Moi, je vais vous donner un petit exemple, Loïc. Hier, nous étions au conseil municipal dans ma ville et la décision a été prise de mettre fin à la prévention spécialisée. Donc, d'arrêter le contrat avec le club de prévention qui agissait à Massy. Un club de prévention, c'est quoi ? C'est une association qui est mandatée par les institutions pour accompagner les jeunes de 12 à 25 ans dans notre territoire dans leurs difficultés sociales, pour prévenir les grossesses précoces, pour éviter les consommations de drogue, pour lutter contre les violences, pour intervenir dans les collèges, etc., etc., avec des éducateurs au contact de ce public jeune. Et bien, dans ma ville, ils ont décidé d'arrêter. Voilà, ça fait partie des décisions contre lesquelles nous avons à nous mobiliser. Et je vous le dis parce qu'il y a des solutions nationales, mais il y a aussi des solutions locales. Et il faut que partout, les élus prennent conscience que chacun de nos actes peut avoir un impact sur la situation d'embrasement dans nos quartiers.
Et là, Kribi Romdan, vous avez évoqué la pauvreté. Il y a ce chiffre terrible donné par le Secours catholique, 10 millions de personnes en situation de pauvreté en France. Est-ce que le revenu universel cher à Benoît Hamon pourrait être une réponse pour lutter contre la pauvreté? Je rappelle que vous êtes porte-parole de son mouvement Génération.
Bien sûr que c'est une solution. Non seulement il y a 10 millions de pauvres, mais il y a 300 000 SDF. Et c'est vrai que de constater, on le voit en Ile-de-France avec des milliers de SDF à Paris, mais de plus en plus en banlieue aussi, on voit bien la difficulté à se loger et la période de crise sanitaire dont la conséquence directe est une crise économique et sociale, elle nous met aussi face à une réalité, une responsabilité. Donc ce qui était complètement inscrit dans notre projet, dans le projet de Benoît Hamon lors de la dernière élection présidentielle, et paraissait utopique à l'époque, paraît aujourd'hui tout à fait nécessaire. Et il n'y a pas qu'en France qu'on parle de ce type de solution. Moi, je suis une militante du revenu universel d'existence parce que je crois que la dignité humaine doit être préservée et que chacun et chacune doit pouvoir compter sur un minimum pour vivre. C'est une position, avant d'être pragmatique, une position de principe, de se dire que quand on travaille, ce revenu peut venir s'additionner à son salaire, mais quand on ne travaille pas ou quand on est bénéficiaire de minima sociaux, ça permet d'avoir un revenu décent pour vivre. Bien sûr, vous savez, Benoît Hamon vient de sortir un livre qui est en vente dans les librairies qui vendent à distance ou en click and collect. Donc j'invite vraiment celles et ceux qui s'intéressent à cette question à aller acheter son livre qui est sorti il y a quelques jours et qui fait déjà fureur puisqu'il y a une deuxième... Il est édité pour la deuxième fois.
Et là, Kribi Romdan, vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France. Comment on travaille au sein du conseil régional en période de confinement? Vous avez assisté, je crois, encore récemment à une réunion?
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est quand même qu'on invite tout le monde à rester chez soi et à travailler à distance. Et les assemblées d'élus, parfois, continuent de se réunir. Et hier, nous avons eu un conseil régional en présentiel. Le quorum était réduit, c'est-à-dire que nous n'étions pas obligés d'être tous présents. Et nous, en l'occurrence, la moitié du groupe auquel j'appartiens, le groupe Alternative Écologiste et Sociale, pouvait venir, était convoqué en présentiel. Voilà, donc on continue. Je fais partie de celles et ceux qui pensent qu'il faut continuer à faire vivre la démocratie, mais qu'il faut être très très vigilant sur les conditions sanitaires et faire preuve d'exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peut faire les réunions à distance, il faut qu'elles se tiennent à distance.
Des élections régionales repoussées au mois de juin, c'est une idée avec laquelle vous pouvez être d'accord?
On voit bien aujourd'hui qu'il est quasiment impossible de tenir des élections au mois de mars pour des raisons sanitaires et puis aussi pour des raisons démocratiques d'une certaine manière, parce que il faut aussi laisser les candidats faire campagne au maximum pour informer la population des propositions et pour qu'ils aient à s'exprimer sur des choses concrètes et pas seulement sur la photo. Nous sommes nous plutôt favorables à ce que ce soit reporté en juin. Après, on ne souhaite pas non plus que la crise sanitaire soit un prétexte et permette au gouvernement de repousser cette élection après l'élection présidentielle, puisque vous l'aurez compris comme moi, le gouvernement actuel n'a pas intérêt à ce qu'il y ait des élections intermédiaires. Quand on voit le résultat désastreux qu'ils ont eu au municipal, je parle de La République En Marche, on comprend tout à fait qu'ils veuillent reculer cette élection pour après l'élection présidentielle. Si tel devait être le cas, nous y serions évidemment opposés. Je crois que les élections intermédiaires sont des élections importantes qui permettent du débat démocratique, qui permettent le renouvellement d'assemblées utiles, importantes. C'est parce qu'en même temps que les élections régionales sont prévues aussi les élections départementales, c'est-à-dire beaucoup conseillers départementaux dans vos cantons. C'est un débat démocratique qui doit avoir lieu et une élection en 2021 et pas après les élections de 2022.
Merci Ella Kribi Romdan, je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, conseillère municipale à Massy et porte-parole de Génération. Bonsoir.
Merci beaucoup à vous Loïc, bonne soirée à tous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.